Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de votre chronique sport préférée sur Radio Esprit Occitanie, bienvenue sur Temps Additionnel. On est le 22 mai 2024 et vous écoutez donc la 18e édition de la chronique. On a pas mal de boulot aujourd'hui et pour traiter tout ça, je suis toujours en compagnie d'Alexandre. Adichas, à toi.
Adichas, Raphaël.
Alors au menu, aujourd'hui on a du lourd avec le dernier match de la saison du TEF qui nous permettra de faire un bilan sur cet exercice 2023-2024. Qui se termine donc pour nos équipes françaises et aussi pour les équipes un peu européennes. Le foot européen d'ailleurs se termine, on va aussi faire un tour. On ira prendre aussi des nouvelles du Stade Toulousain qui a joué ce week-end en top 14 et aussi on parlera du Toulouse Olympique dans cet arc rugby de cette émission. On verra aussi que la Formule 1 avait posé ses valises sur le mythique circuit d'Imola dimanche dernier. La MMA aussi était de retour, Cédric Doumbé aussi était de retour pour faire oublier sa défaite d'il y a quelques mois. Et pour finir, comme d'habitude, on ira prendre des nouvelles du Phoenix. Donc pour commencer cette émission, on va parler de nos violets du Toulouse Football Club qui ont officiellement terminé leur saison dimanche soir face à Brest à domicile. Ce dernier match s'est soldé par une défaite 3-0, nette des Toulousains. Les trois buts ont été inscrits en seconde période face à une équipe toulousaine inexistante, malgré les entrées de Magri ou de Genro. Franchement, moi je pense pas qu'on va se pencher plus longtemps sur le match, parce que je pense pas qu'il y ait grand chose à dire. Le match était franchement pourri à voir. Une chose plus intéressante quand même, c'était l'ambiance en virage Brice, qui en voyant le niveau d'intensité du match, a décidé de s'amuser un peu, nous qui étions en virage Brice. Avec Alexandre, on a bien rigolé à chanter, à se faire des concours au sein du virage et à noter quand même un craquage massif de fumigène en fin de match pour la Dero Stadium et un show organisé par le club. Un show d'après-match à base de feux d'artifice et de musique. Show en partie créé aussi pour dire au revoir aux trois joueurs qui quittent le TEF à la fin de la saison, Mikel Dessler, Moussa Diarra, Thomas Himmer. On a deux légendes du TFC qui nous quittent, qui nous ont accompagné pendant plus de 100 matchs, et Thomas Himmer qui a fait un parcours aussi incroyable en Gambardella en 2019, on s'en souviendra.
Eh oui, pour te dire justement, le public qui ne déçoit jamais, les Indians au top à chaque fois, mais pour moi c'est le pire match du TEF cette saison. Je trouve ça inadmissible de perdre 3-0 au stadium. Franchement, c'était le dernier match de la saison et nos joueurs nous ont clairement pas respectés. Tu sais, j'avais l'impression qu'ils pensaient déjà à leur réservation pour Bora Bora, Tahiti, j'en passe. En fait, je comprendrais jamais pourquoi le TEF est plus performant à l'extérieur qu'à domicile, c'est vrai. De toute façon, cette saison a été la pire performance à domicile de l'histoire du club. Tu te rends compte, mec, 3 victoires, 17 défaites à domicile en Ligue 1. En revanche, en Europa League, très différent, on n'a perdu aucun match au stadium. En phase de groupe, je précise, on n'a perdu que contre le Benfica en 16e de finale. Maintenant que la saison est terminée, déjà qu'on doit subir les départs de Dessler, de Moussa Diarra, Thomas Himmer, et de potentiels départs de cadres de l'équipe, faudrait pour moi qu'avec cet argent, on recrute des joueurs qui puissent contribuer à l'avancée du club et à faire oublier le départ de certains, mais bon. Je tiens à féliciter Brest pour sa qualification en Ligue des Champions. Franchement, pour un club qui, de base, fait l'ascenseur entre la Ligue 1 et la Ligue 2, c'est juste un exploit ce qu'ils ont fait, honnêtement. Et niveau ambiance, même s'il y avait beaucoup de touristes en virage Brest qui ne contribuaient pas à l'ambiance, on a fait du bruit, il y a eu l'échange avec les Brestois venus en nombre en parquage visiteur sur certains champs. Par exemple, quand on faisait « nous, nous sommes le TFC », ils répondaient « nous, nous sommes les Brestois ». Donc franchement, c'était bien, il y avait un beau jeu sur ça. Bref, on verra si le TEF sera compétitif la saison prochaine, qui démarrera mi-août. D'ailleurs, on va en parler du bilan.
Un peu de bilan, mais surtout, tu avais dit qu'on prenait peut-être un peu d'argent sur les départs. Mikel Dessler, il part gratuit quand même, je crois. Donc, je sais pas si on va prendre beaucoup d'argent, mais un petit bilan. En vrai, à domicile, au niveau du championnat, ça laisse à désirer. 3 victoires sur 17 matchs. C'est assez inquiétant. On dirait qu'on porte malheur. Le stadium porte malheur au TFC, tandis qu'à l'extérieur, c'est incroyable. Je crois qu'on est troisième équipe à l'extérieur, derrière Paris et Lyon. Donc on sait ce qu'on doit faire l'année prochaine, gagner au stadium, et mentalement c'est tenir sur le temps additionnel, parce qu'on l'a vu, le temps additionnel, c'est pas notre fort. Donc bilan mitigé, on va dire. On finit mieux que l'année dernière, malgré qu'on soit passé à 18 équipes, mais on voit qu'il y a un mieux à faire, il y a un potentiel. Il n'y a pas trop de départs importants comme l'année dernière, à part Mikel Dessler, Moussa Diarra, c'est remplaçable. Donc Il y a du potentiel et même le président Comolli a dit qu'il jouerait l'Europe dans les prochaines années, donc on peut y croire. Hein.
Oui, de toute façon, quand j'ai dit 17 défaites, bah, je me suis trompé. En fait, ça, c'était 3 victoires en 17 matchs à domicile. Ouais. Tu vois, il ne faut pas trop être pessimiste non plus. Hein. Un petit lapsus révélateur quand même, parce qu'on ne gagne jamais à domicile, j'ai l'impression. Mais là, franchement, j'ai peut-être confiance pour la semaine prochaine. Franchement, si on est au moins 8e ou 9e la saison prochaine, c'est très bien. Comme ça, bah, ça motivera justement les joueurs à aller en Europe.
C'est ça, on a le potentiel. Bon, assez parlé, on va faire un petit point. Classement de Ligue 1, le classement final évidemment. Donc PSG champion, loin, à 9 points devant Monaco. Brest clôture le podium. Lille 4e, Nice 5e, Lyon 6e et Lens 7e qui accédera aussi donc à la Coupe d'Europe. Marseille 8e. Il n'y aura pas en Coupe d'Europe, donc nous, ce qui nous intéresse, c'est le TEF. 11e, on fait donc mieux que l'année dernière. On termine juste derrière Rennes et juste devant Montpellier. On sait qu'on pouvait faire mieux en fin de saison. Franchement, y avait la place, les buts dans le temps additionnel qu'on se prend, c'est dommageable. Hein. Franchement, je pense que sans le temps additionnel, j'avais calculé il y a 2-3 matchs, on aurait été peut-être 5e. Donc mentalement, il y a juste le mental à bosser. Après, on a le potentiel. Donc rendez-vous la saison prochaine, hein, mais on va faire quand même un petit bilan sur le foot français quand même, ce qui s'est passé, parce que fin de saison, qui dit fin de saison dit descente, dit montée, dit parcours en Europe peut-être incroyable pour la suite. Donc c'est l'heure du bilan, hein, pour le foot français. Donc PSG, Monaco et Brest en Ligue des Champions. Lille fera donc les barrages de la compétition Rennes. Nice et Lyon iront en Europa League, hein. Lyon qui a fait aussi un parcours incroyable, hein. 18e à la 13e ou 14e journée et qui arrive à accrocher l'Europe, c'est incroyable ce qu'ils ont fait. Et Lens aussi en barrage donc de Conference League qui accède donc à l'Europe, qui continue son parcours européen, qui avait fait la Ligue des Champions l'année dernière. Quant aux descentes, bah, c'est Clermont et Lorient qui vont aller en Ligue 2, hein. Souligner que Lorient n'accède pas au barrage à un but près après leur victoire 5-0. Bah, ça n'a pas suffi, donc ça doit être terrible pour les Lorientais. Metz, barragiste, affrontera donc soit Saint-Etienne, soit Rodez, soit Paris. Rodez, 4e, accueille Paris, 5e. C'est l'équipe qui finit le plus haut qui accueille le match. Et le vainqueur de ce match affrontera Saint-Etienne au stade Geoffroy Guichard à Saint-Etienne. Pour parler de Rodez, on a Mathis, supporter ruthénois, avec nous, qui va nous parler un peu de son point de vue pour peut-être la montée en Ligue 1 de Rodez.
Et peut-être. Mais là, c'est que du kiff, parce que qui aurait pu penser que Rodez allait finir barragiste à la dernière journée, nous qui jouons d'habitude le maintien à la dernière seconde. Donc là c'est incroyable. On y croit, parce qu'on ne sait pas ce qu'on fait là, c'est tellement incroyable qu'on se dit pourquoi pas. Donc on y croit, même si ça passe pas, ce sera la meilleure saison qu'on ait connue de toute notre existence.
C'est vrai ça.
Et là c'est que du kiff, le travail de
Didier Fantini. Ils sont montés en Ligue 1 une fois, Rodez, ou pas?
On n'a jamais été en Ligue 1.
C'est l'occasion en vrai.
Mais c'est incroyable.
C'est l'occasion. Bon, il y aura aussi l'occasion peut-être de voir aussi un duel Paris Saint-Germain et PFC aussi l'année prochaine, mais
on espère pas.
On espère Rodez pour la région quand même.
Oui, quand même, voilà, la région. En plus, très bel effectif, hein, l'équipe de Rodez et Kylian Corridor. Mbassi, franchement, des bons joueurs. Et
il y a la place. Hein.
Il y a la place.
Saint-Etienne sont en forme quand même.
Et le travail de Didier Santini, l'entraîneur aussi, qui est phénoménal.
C'est ça. Franchement, une équipe qui joue le maintien, comme tu disais, c'est beau. Hein. Ça rappelle Brest en Ligue 1, du coup. Mais on vous souhaite bonne chance, hein, franchement.
Et merci, on y croit.
Un petit duel d'Occitanie, Toulouse-Rodez.
Il nous faut la revanche sur la Coupe de France, là.
De ouf.
On attend que ça.
De ouf. Donc, on vous souhaite bonne chance. D'ailleurs, on va parler de Ligue 2 quand même. On va continuer à parler de Ligue 2, puisque Auxerre a été champion et Angers second, donc sont promus en Ligue 1. Auxerre, seulement une saison après avoir été relégué, remonte. C'est assez exceptionnel quand même, c'est assez rare. Souvent, c'est deux ou trois saisons, comme l'a fait le TEF par exemple. Donc Auxerre champion, c'est magnifique. Et par contre, c'est trois Concarneau, QRM, donc QRM, c'est Rouen, Valenciennes sont relégués en National. Donc la Ligue 2 passera aussi à 18, donc c'est pour ça qu'il y a autant de relégués. Et en National, c'est le Red Star de Habib Bey qui montera en Ligue 2. Et Martigues, ça faisait longtemps qu'ils n'étaient pas montés en Ligue 2. Martigues,
21 ans.
C'est un club,
c'est fou.
C'est un club des années 40, Martigues, ça, qui joue en Ligue 1.
Ouais.
Et donc, Red Star 5 ans après, ça va être pas mal. Hein.
Et en plus, je tenais aussi à parler de la Nationale. Tu as vu quand même les équipes, les anciennes équipes de Ligue 1 qui étaient performants il y a 5 ans, qui là aujourd'hui chutent. Ben, je pense à Nîmes, qui a fini 11e, donc très proche en fait de la relégation. Hein. Donc franchement, c'est un peu dommage pour une équipe de cette envergure qui était 9e de Ligue 1 il y a 5 ans.
Bon, on va faire quand même un petit tour d'Europe. Hein, on a parlé de la France, c'est bien, mais on va faire un petit tour d'Europe, c'est ce qui nous intéresse aussi. Ce soir, il y a la finale. Bayer Leverkusen contre l'Atalanta Bergame. Donc Bayer Leverkusen sur une série historique, hein, 50 matchs sans défaite, champion d'Allemagne, incontesté, en lice dans toutes les compétitions restantes, Coupe d'Allemagne et donc Europa League, surnommé Neverlosen, ne perdent jamais. Donc ils sont en route pour écrire l'histoire. Et de l'autre côté, on a l'Atalanta qui ont sorti le Sparta Prague en 8ème de finale. Score 11-2 en cumulant les deux matchs, puis ont sorti Liverpool 3-0 à Anfield, sorti Marseille. Et maintenant, à leur tour de sortir peut-être le Bayer Leverkusen et de casser leur série historique. Donc attention aux joueurs de l'Atalanta qui peuvent créer clairement la surprise. T'as quelque chose à dire peut-être, Alexandre?
Franchement, le Bayer Leverkusen, c'est trop, parce que même ils se prennent des scores, ils remontent à la fin. C'est, ouais. je crois que c'est la saison, mais je crois que dans l'histoire du foot, t'as jamais vu ça. Une équipe, bon, un peu comme ce qu'a fait Arsenal en Première Ligue, hein, ça veut dire gagner sans perdre, ouais. en Première Ligue, sauf que là, bon, en Bundesliga, c'est jamais arrivé que le Bayer Leverkusen gagne tous ses matchs, n'a perdu aucun match, donc là, il y aura le bouclier en or. Mais bon, je pense que vu comment ils sont en forme, ça va être très compliqué. Là, je pense que le match sera très serré, mais ouais. Je vois le Bayer Leverkusen gagner haut la main.
Mais je pense qu'il y a une sorte aussi de pression autour du Bayer, parce que plus ils gagnent, plus je pense qu'ils ont peur de perdre aussi, quoi, parce que la série, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas connu la défaite.
Ah, ils n'ont même pas connu la défaite tout court.
Ils doivent avoir une pression, je pense, énorme sur les épaules du Bayer, donc à voir, de toute façon, on va voir ce soir, c'est à Wembley. Elles jouent un peu plus tôt que d'habitude, mais bon... Ouais, tant mieux, hein, on va se régaler. Je pense que ça va être un très beau match qui va jouer en fin de match, franchement. On a aussi quand même, on va parler des top 5 des championnats européens. On avait la finale de l'Europa League, on va parler un peu du top 5. On va en Italie, parce que la Juventus, on en avait parlé. Donc remporte la Coupe d'Italie après 3 années sans trophée majeur suite au départ de Cristiano. Hein, voilà. Donc 3 années, et ça peut peut-être les relancer. Une coupe, ça relance... Ça relance une équipe. En Angleterre, on a Manchester City, champion de Première Ligue, officiellement la dernière journée. Au nez et à la barbe d'Arsenal, hein, qui n'a toujours pas son titre de champion d'Angleterre. La FA Cup, il y aura donc Manchester City contre Manchester United. Manchester United qui ne jouera pas de Coupe d'Europe cette année. C'est quand même incroyable, contre Manchester City en pleine forme. Ça va être chaud pour les mancuniens. On a aussi la finale de Coupe d'Allemagne. Donc le Bayer Leverkusen, on en parlait, contre Kaiserslautern. Avantage clairement Bayer qui... va essayer de tout remporter sur son passage.
Oui, mais il faut quand même féliciter Kaiserslautern. Hein. Il faut savoir qu'ils jouent en deuxième division. Ils sont arrivés jusqu'en finale de Coupe d'Allemagne. Hein. Et puis, sans parler aussi, tu te rappelles de Saarbrück qui avait battu le Bayern Munich.
C'est vrai.
C'est fou.
C'est incroyable. Franchement, en Allemagne, c'est un championnat de fou. Il se passe tout le temps des choses, donc c'est pas mal. Et on a aussi la finale de la Coupe de France. Lyon contre le Paris Saint-Germain au stade Pierre-Mauroy de Lille pour changer. Ce ne sera pas au stade de France. Donc, au revoir à la Coupe de France, hein, pour Toulouse. On en a bien profité pendant cette année. Donc, petit avantage PSG quand même, même si Lyon est sur une grande forme. PSG, c'est PSG.
Oui, c'est quand même le PSG, mais oui, par rapport à la Coupe de France à Toulouse, ben, on aura une réplique. Donc on pleure, oui, mais pas pour
c'est
longtemps.
Bon.
Ouais, c'est
ça. Elle est dans l'armoire à trophées.
Elle est dans l'armoire à trophées.
On est content, franchement, mais ouais, petit avantage PSG. Mbappé voudra partir quand même en héros un peu du PSG avant son départ peut-être au Real Madrid. Donc affaire à suivre. Hein.
Affaire à suivre.
Désormais, bon, on passe au rugby. Qu'est-ce qui s'est passé en rugby? C'est le Stade Toulousain qui a gagné face à Montpellier. À Montpellier, là-bas en plus chez eux, 29-22 pour les Stadis. Donc du côté des essais, bon, on a Mathis Castro-Ferreira à la 5e suite à un petit coup de pied et un rebond chanceux qui met le premier essai. Et Binuyata à la 15e suite à une très longue séquence de possession toulousaine qui vient aussi marquer. Puis Mathis Castro-Ferreira à la 26e grâce au forcing toulousain qui vient porter le score à 19-7. Bintouyata à la 30e chute un magnifique ballon porté des Toulousains qui amène le score à 24-7 et pour les transformations c'est Baptiste Germain qui s'en est occupé, score final 22-29 pour les Stadistes. On a le droit à une première mi-temps très animée avec un gros temps fort dans chaque équipe, hein. Et à la mi-temps il y avait 22-26 pour Toulouse et franchement en seconde mi-temps il s'est quasiment rien passé à part une pénalité pour Toulouse qui va porter le score à 29 pour Toulouse, donc les trois pauvres petits points restants. Eh bien, ils sont pour Toulouse face à nos voisins montpelliérains qui continuent leur course au maintien. Donc, une seconde mi-temps pauvre, on l'a dit. Et on sait que Toulouse aussi a aligné quand même l'équipe C, hein, je pense, parce que j'en connais. J'ai la composition devant moi. Je connais Mathis Castro-Ferreira, Thomas Ntamack, Et c'est tout, en tout cas Pozzo, hein, parce que franchement, sinon je connaissais personne, même les remplaçants, je connaissais pas.
Alors Pierre-Louis Barassi, il est quand même connu, hein, mais bon.
Ouais, mais c'est pas
oui, bon, ça, on
la
a
Dream
compris,
Team.
Oui.
Hein.
C'est ça, c'est pas du tout la Dream Team. Hein. De toute façon, bah, le stade a ramené la réserve des réserves, hein, la classe biberon à Montpellier. Et petite anecdote d'ailleurs, trois joueurs du stade toulousain, bah, quelques heures avant la rencontre, passaient leurs épreuves de BTS. Bon, bah, il y avait quand même Ange Capozzo face à Lélé et Delib, mais pour te dire que l'enjeu de victoire du Stade Toulousain était un pari risqué, hein, face à une équipe de Montpellier plus expérimentée, mais avant-dernière du top 14, quand même, faut le rappeler. Bon, certains pronostiquaient que Toulouse allait en prendre 40, et bien, expérience ou pas, c'est le stade qui a eu le dernier mot. Rien qu'en première période, bah, nous Toulousains ont pris leur marque avec les essais de Matisse Castro-Ferreira, Bitugnata, mais en deuxième période, c'était très calme, trop calme même. Heureusement, de toute façon, que nous, Toulousains, ont tenu le score et ont réussi à marquer l'essai de pénalité de Baptiste Germain à la 64e minute. Franchement, c'était bien joué. Et c'était pourtant en infériorité numérique, hein, après le carton jaune de l'ailier Bitugnata. Voilà, on peut dire que Montpellier est prêt pour la Pro D2, en tout cas. Bon, je peux dire aussi, je peux rajouter un truc, bah, forcément, Montpellier souffre, hein, puisque forcément, Montpellier est orphelin de Paolo Garbisi, hein, qui a été transféré à Toulon, ça fait mal. Voilà, prochain match de top 14, ce sera contre le Stade Rochelet et Ernest Vallon. Je ne sais pas si le Stade, d'ailleurs, alignera le 15 titulaire parce que le match se jouera juste après la grande finale de Champions Cup face au Leinster. J'attends que cette finale.
Ah bah là, franchement, mais on peut dire aussi que la relève quand même est assurée au Stade Toulousain parce que même si c'était les jeunes qui ont passé leur BTS, justement, ils ont réussi quand même à tenir une équipe de top 14 très expérimentée. Montpellier, c'est quand même une grosse équipe. Donc même en alignant l'équipe C, on arrive à remporter des matchs. Et pour le match après contre le Stade Rochelet, je pense pas qu'ils s'alignent là. Oh si, peut-être. Si, parce que ils sont quand même assez assurés de terminer dans le top 2. Donc ils peuvent faire tourner, mais c'est sûr que ça donne plein de confiance pour les jeunes et pour l'équipe A pour la finale. Hein.
En plus, c'est un beau match, le Stade Rochelet, tu vois. Ceux qui étaient finalistes.
Derby,
ouais, c'est ça, ceux qui étaient finalistes l'an passé, même champion d'Europe.
C'est ça.
Donc c'est sympa de voir un petit duel, en plus Ernest Vallon, Stade Toulousain, Stade Rochelet, t'es obligé d'aligner l'équipe type.
Exactement, bon rendez-vous quand même le 25, hein, c'est la finale de la Champions Cup, on en parlera, on regardera le match, on vous fera un petit résumé, et ça va être le match de l'année pour le Stade Toulousain qui est déjà quasiment assuré de jouer les phases finales en top 14, donc ils n'ont plus qu'à se concentrer sur ça, faire un petit point classement. Le Stade Toulousain qui conserve sa première place devant le Stade Français malgré la défaite du Stade Français. Troisième, c'est Bordeaux-Bègles. Quatrième, Toulon. Cinquième, le Stade Rochelet. Sixième, le Racing. Donc tout ça, pour l'instant, ça disputera les finales de Top 14. On a vu donc Montpellier qui sera peut-être officiellement relégué, hein, à 11 points du Loup qui sont 12e. Oyonnax aussi relégué. On arrive aussi sur cette fin de saison en rugby, même s'il reste 3 ou 4 matchs. Donc, Toulouse est assuré quasiment de finir dans le top 2 et à 10 points du 3ème Bordeaux-Bègles. Franchement, on souhaite bonne chance pour nos Montpellierains. Peut-être qu'ils peuvent espérer engranger le maximum de points.
Oui, bah pour te dire, justement, il reste deux matchs en fait, puisque là, on va affronter le Stade Rochelet.
Voilà.
Et juste après, on va affronter, là, ça va être le dernier match, on va affronter le Loup-Lyon. Et après, il y aura les phases finales. Mais justement, je voulais intervenir sur Montpellier parce que c'est vrai que c'est bizarre de les voir avant-dernier top 14 alors qu'il n'y a pas longtemps, ils étaient champions de top 14. Donc, c'est inconcevable en fait, de les voir avant-dernier.
Un gros trou de génération hein, du côté de Montpellier, je pense. On leur souhaite bonne chance en Pro D2. Et puis, on va passer au rugby à 13. Pardon. Au rugby à 13, le Théo 13 qui a affronté Barreau, qui a gagné 38 à 16. Qui conserve donc sa 6ème place aussi, hein, très belle victoire de nos joueurs du Toulouse Olympique. Ils gardent donc leur 6ème place juste devant Doncaster. Et 6ème place synonyme donc de play-off pour la montée en première division de rugby à 13. Toi, t'avais quelque chose à dire peut-être, Alex.
Mais franchement, moi, je félicite le Théo 13, un grand bravo. C'est la 2ème victoire consécutive. Bon, pour l'instant, le Théo 13 a gagné contre des équipes du bas de classement, mais l'important, c'est de se qualifier pour les play-offs, comme tu as dit. Bah oui, c'est le plus important. De toute façon, nos Toulousains bah, se sont quand même fait peur en première période. Hein. Ils étaient menés 16 à 4 à la demi-heure de jeu, mais malheureusement, nos Toulousains ont fait le taf et sont revenus en seconde période sans encaisser le moindre point. Une victoire qui leur permet bah, de conforter leur place dans le top 6 de Championship. Mais attention quand même, parce qu'il bah, y a Doncaster qui a le même nombre de points que nous. Bon, le prochain match, ça ne va pas du tout être facile puisque nos Toulousains se déplacent en terre anglaise pour affronter Widnes Vikings. Le deuxième de cette championship et concurrent direct de Wakefield, donc le leader de ce tournoi. Donc il faut faire très attention.
Faire très attention surtout. Après, ils ont fait un match nul, donc leur série a été un peu cassée, leur saison de victoire a été un peu cassée. Donc à nos joueurs de Toulouse d'en profiter pour essayer de faire un gros coup et essayer d'aller raccrocher Bradford pour prendre 2 points pour essayer d'aller raccrocher Bradford, 5e de ce championnat.
Ouais, c'est...
On va continuer à parler un peu de rugby, mais maintenant c'est l'heure quand même de le fameux instant prono. Alexandre, je vais te poser la question, la fameuse question de l'instant prono. La question d'aujourd'hui concerne le Stade Toulousain. Donc, la question, c'est: le Stade Toulousain peut-il décrocher sa 6e étoile samedi prochain face à sa bête noire, le Leinster?
Alors, très compliqué et très bonne question d'ailleurs, puisque ça fait depuis 2018 qu'on n'a pas gagné Leinster. C'est une équipe qui est assez dangereuse. Hein. Il faut voir ce qu'ils font en division avec l'Irlande. Il faut voir aussi en Champions Cup. Et honnêtement, je me dis que oui, le Stade Toulousain peut décrocher la 6e étoile. Pourquoi? Parce que là, franchement, en Champions Cup cette saison, on est très bien parti. On a fait vraiment des scores qu'on ne s'imaginait même pas de mettre à certaines équipes. Par exemple, moi, 60 points. Et je me dis, vu que là, on a une des meilleures équipes actuellement, ça peut être très bien. Ça dépendra juste des décisions arbitrales. Ça dépendra juste comment on abordera au début de la rencontre. Tout va se jouer sur ça, mais je vois le Stade Toulousain gagner la 6e étoile. Et je bloque ma réponse.
Donc ta réponse, donc tu vois le Stade Toulousain gagner face à sa bête noire, le Leinster. C'est vrai qu'on est en forme.
Et bah dis-moi, qu'est-ce que t'en penses justement? Est-ce que tu penses que le Stade Toulousain peut-il décrocher sa 6e étoile face à sa bête noire, le Leinster?
Moi je pense aussi qu'ils peuvent décrocher, hein. Franchement ils sont en pleine forme. Les critiques disent aussi que c'est une des meilleures équipes du Stade Toulousain qu'ils ont jamais vues depuis de longues années. Du côté de Leinster, j'ai pas trop de nouvelles, mais franchement je vois le Stade Toulousain en pleine forme. L'équipe C qui bat une équipe de top 14, alors que, comme tu l'as dit, c'était en train de passer le BTS dans l'après-midi. Donc, un Toulousain, je pense, un Stade Toulousain dominant. Ouais, comme tu l'as dit, décision arbitrale. Mais bon, après, c'est une finale de Champions Cup. Franchement, ça a intérêt à être rigoureux. Et il va falloir être solide quand même défensivement. Je pense qu'on va subir plus qu'on va faire subir. Donc, il va falloir être très solide. Mais c'est ça aussi la force de cette équipe, c'est de pouvoir encaisser et de pouvoir après lancer des contre-attaques magnifiques. On a un jeu très rapide vers l'avant, sur les ailes aussi, avec le retour de Capozzo qui peut emmener beaucoup de vivacité sur les ailes. Et Antoine Dupont aussi en grande forme, Ntamak aussi qui revient en grande forme. Donc franchement, moi aussi, je vois le Stade Toulousain décrocher sa 6e étoile. Je sais pas où ils vont le mettre sur le logo, parce que 5 étoiles déjà, c'est trop serré. Mais allons décrocher cette 6e étoile à Wembley. Hein. Je bloque ma réponse du coup. Donc, on a les deux réponses, hein, un Stade Toulousain pour nous deux. Donc, rendez-vous hein, mercredi prochain, pour savoir le résultat, si on a raison, si on a tort. On espère quand même avoir raison pour cette équipe du Stade Toulousain. On passe désormais à la Formule 1 qui a vu encore une fois couronner Max Verstappen à Imola sur le mythique circuit où il y a eu un magnifique hommage aussi. Ayrton Senna, donc le podium, Verstappen premier, Norris deuxième, Leclerc troisième. On s'est franchement ennuyé au début du Grand Prix, hein, franchement jusqu'au tour 40 c'était long, c'était vraiment long, et heureusement que dans les derniers tours, Lando Norris et Charles Leclerc sont venus mettre un peu de piment dans cette fin de Grand Prix pour aller peut-être titiller Max Verstappen. Bon, ils n'ont pas réussi, mais ça fait quand même une fin de course animée. C'est ce qu'on s'attend de toute façon sur un circuit comme Imola qui a plein de virages serrés, qui use beaucoup les pneus. Donc ça a été très intéressant aussi au niveau stratégique. Ferrari a réussi sa stratégie, franchement, ça fait plaisir. Donc le top 5, c'est donc Verstappen, Norris, Leclerc, Piastri avec sa McLaren et Carlos Sainz. McLaren qui reviennent très très bien par rapport à l'année dernière, franchement, c'est une amélioration de fou. Le premier français, c'est Esteban Ocon, 14e au volant de son Alpine, Pierre Gasly, et 16e. Donc la saison noire continue donc pour l'écurie française Alpine, hein, franchement. Ils voient pas le jour.
Ah, c'est dur pour Alpine. Et franchement, McLaren, c'est surprenant. Ils reviennent de loin. Mais bon, même si c'est Verstappen qui gagne une nouvelle fois, j'ai trouvé que ce Grand Prix d'Imola était divertissant à voir. Déjà, il y a eu la surprise Lando Norris, qui, on rappelle, était en galère avec McLaren. Justement, ils reviennent de loin à cause des mauvaises stratégies. Sauf que c'est du passé désormais, puisque après les moments turbulents chez McLaren, c'est devenu une écurie qui rafle le podium depuis 3 Grands Prix déjà. Il faut le souligner, c'est vraiment pas mal. Hein. Et la 4e place d'Oscar Piastri, t'as souligné aussi. Hein. Donc franchement, ce coup de poker qu'a fait McLaren permet à l'écurie britannique de se hisser sur le podium des constructeurs. Et puis, bah, vu que le Grand Prix se passait dans le circuit mythique de Imola, en Émilie-Romagne, mais heureusement que Charles Leclerc termine troisième, parce que là, ça aurait été très mal vu de ne pas voir une Ferrari sur le podium chez elle, dans sa région. Et on a eu droit qu'à l'abandon d'Alexander Albon pour l'écurie Williams, donc pas trop d'accidents ou d'accrochages. Hein. Moi, je pensais qu'elle allait avoir pas mal d'accrochages. Mais bon, c'est du passé. De toute façon, ce circuit a bien changé, parce qu'on connaît tous l'histoire du tragique week-end d'Imola en 94, qui, 30 ans après, restera à jamais gravé dans l'histoire de ce circuit. D'ailleurs, bah, ce Grand Prix d'Imola a rendu hommage aux regrettés Roland Ratzenberger et Ayrton Senna, qu'on connaît malheureusement pour leur crash à Imola en 94.
Exactement, ce circuit porte une énorme histoire. Donc ouais, on l'avait vu l'hommage et c'était franchement très émouvant. Et on a vu aussi peut-être McLaren qui va faire une livrée spéciale Ayrton Senna pour le Grand Prix de Monaco. Ça va être aussi pas mal à regarder. Et tu l'as dit, franchement, c'est cool qu'on se soit pas ennuyé. Et j'ai quelque chose à noter, c'est Mercedes, on les voit plus.
Ah oui, ils sont inexistants. Ils sont où, Mercedes?
Je sais pas.
Tu les vois? Moi, je les vois pas.
Là, je vois le classement. Quatrième du championnat constructeur, on les voit plus. Ils sont à plus de 70 points de retard de McLaren maintenant. Aston Martin aussi, on les voit plus. Si je regarde le classement. Non, bah non. Lance Stroll, 9e. Donc, franchement, il y a eu du mouvement par rapport déjà à la saison dernière, mais aussi au début de saison. On voyait quand même Aston Martin assez en forme. Mais ça fait plaisir à voir un McLaren qui revient sur les devants de la scène après une année assez difficile. Ce qui fait moins plaisir, par contre, c'est Alpine, 8e du championnat constructeur, avec un pauvre petit point. Bon, devant Williams et Sauber, mais un point, quoi.
Ouais, c'est triste. Hein. Mais par contre, moi, je suis quand même content pour le classement, parce que Ferrari, qui est deuxième, n'est pas trop loin de Red Bull comparé à la saison dernière, où là, ouais. Red Bull raflait tous les Grands Prix, on s'est dit, bon, bah, c'est foutu. Et McLaren, c'est vraiment la surprise hein, pour moi cette saison. J'espère qu'ils vont continuer comme ça. Bon, j'espère pas qu'ils vont être deuxième parce qu'on supporte Ferrari ici, mais.
Exactement.
Franchement, c'est bien parce que ça change et parce que c'était un peu lassant de voir toujours les mêmes trucs, toujours les mêmes constructeurs gagner. Là, ça change, c'est bien.
Après, c'est toujours Max Verstappen. Hein. Franchement, c'est limite Max Verstappen contre Ferrari parce que Sergio Perez termine 8e. Donc, ouais. Il apporte pas beaucoup de points à Red Bull. C'est vraiment Max Verstappen contre le reste du monde. Après, il est quand même incroyable ce coureur. On va pas s'enlacer, il est quand même incroyable. Donc ben rendez-vous le week-end prochain à Monaco pour le Grand Prix mythique. On enchaîne deux Grands Prix mythiques Monaco et il faut le gagner dans une carrière. Tout le monde veut la gagner. Ça se joue aux qualifications, donc à suivre pour les qualifications. Celui qui termine premier en général gagne le Grand Prix, à part si c'est Charles Leclerc qui a sa malédiction évidemment. Mais rendez-vous de toute façon le week-end prochain pour le Grand Prix de Monaco. On va parler aussi un peu de MMA, la bagarre. Cédric Doumbé qui est revenu sur les rings après sa défaite contre Baïsangour Chamzouninov. On l'avait vu, elle a fait assez polémique, elle a fait assez parler. Cédric Doumbé devait se rattraper face à tout le trash talking qu'il avait fait autour de Baki. Il a pas beaucoup parlé de ce combat, mais bon, après il a pas trop eu le temps. Hein. Combat terminé en 3 minutes 34, KO, premier round face à Jalil Willis, l'américain. Il a pas vu le jour, hein, c'était très rapide, KO premier round, comme il aime le dire. Alexandre, toi, t'avais suivi un peu le combat?
Ouais, franchement, dis-toi qu'après avoir été ridiculisé sur les réseaux, parce qu'on connaît forcément l'histoire de l'écharde avec Cédric Doumbé, le duel Baki, forcément, les gens ne prenaient plus du tout ces trash talk au sérieux. Sauf qu'il a montré, cette fois au Bellator, pourquoi on aime regarder le MMA, justement, par rapport à ça, en 3 minutes 34, il met un KO technique à Jalil Williams, c'est incroyable. Mais en fait, ce qui a changé, c'est qu'il n'a pas fait de coups de pub ou de com ou de trash talk avant le combat, alors que de base, c'est un pro du chambrage, hein, on le sait tous. Mais il a quand même fait discrètement passer un message à la PFL, justement, parce que au moment où il est entré dans l'octogone, il a passé l'aspirateur pour inspirer d'éventuelles échardes. Donc c'était plutôt drôle à voir, surtout qu'il a fait de l'autodérision par rapport à ça. Et...
Oui, Doumbé devait faire du Doumbé dans tous les cas parce qu'il n'avait pas communiqué. De toute façon, il ne devait pas communiquer après... Ce qui s'est pris.
La twistosphère, c'est méchant.
Il devait pas communiquer. De toute façon, personne n'allait le croire. On allait le prendre pour un guignol. Donc après, il a passé son petit coup d'aspirateur. C'était assez marrant. On va rester un peu aussi quand même sur le thème de la bagarre, sur le thème du MMA. C'est un peu plus précis. C'est du grappling. Donc la DXC4, où accompagne du Benoît Saint-Denis, qui a obtenu sa victoire face à Marc Diakese. Donc on le rappelle, Benoît Saint-Denis qui avait perdu face à Dustin Poirier il y a quelques mois maintenant. Bon, il était malade, on le sait. Donc il fallait se rattraper, donc deux Français se sont rattrapés cette semaine, donc ça fait plaisir à voir.
Et surtout en plus, comme tu avais dit, ça fait au moins 2 mois là, qu'il a perdu face à Dustin Poirier en UFC. Forcément, Benoît Saint-Denis voulait reconquérir son public, ça a payé avec une victoire contre l'anglais Marc Diakese, franchement magnifique. Et c'était un très bon combat au début parce que Benoît Saint-Denis a été très fort sans pour autant parvenir à effectuer un étranglement sur le Britannique, qui a très bien défendu tout au long du combat d'ailleurs, et puis... Mais franchement, les trois premières reprises étaient largement pour Benoît Saint-Denis. Et, mais il a bien failli payer cette débauche d'énergie face à Diakhaizé, prêt à exploiter la moindre faille sans parvenir à le soumettre. Bah, et bien, figure-toi que c'est cette prestation qui a fait que bah, c'est le Frenchie God of War Benoît Saint-Denis qui a remporté ce duel au point de l'unanimité. Franchement, magnifique. Et on espère avoir Benoît Saint-Denis au top pour la suite.
On espère le revoir en MMA, du coup, parce que ça va peut-être le relancer. On espère voir aussi, du coup, Cédric Doumbé se relancer. Donc, affaire à suivre. Hein.
Affaire à suivre.
Un mot pour terminer du Phoenix et la victoire des Toulousains face à Aix-en-Provence 39 à 34 dans un match où les Toulousains ont été assez peu inquiétés, ont mené tout le long du match. Ça fait plaisir, ça donne des points, ça conserve la quatrième place évidemment. Aix-en-Provence donc qui descend 8e suite à la victoire de Chambéry. Toulouse 4e qui va rester 4e et juste un petit point classement avant. Paris est menacé fortement par Nantes qui enchaîne une 7e victoire d'affilée. Donc peut-être que Paris va se faire voler aussi le titre de champion de France cette année.
Ah, ce serait drôle, voir le PSG pas gagner au handball.
Franchement, ça fait bizarre même. Ça fait bizarre. Ils sont qu'à un point, Nantes, on le rappelle. Hein.
Ouais, donc c'est ça qui est fou. Hein. Mais ouais. Bon, le Phoenix a fait une très belle opération en gagnant contre Aix-en-Provence. C'est vrai, à l'extérieur, parce que oui, bah, c'est garanti à 100%. Bah oui, le Phoenix jouera en Coupe d'Europe la saison prochaine. C'est beau. Ça va faire 2 ans que le Phoenix n'a pas joué en Europe. Mais je sens qu'on a une équipe qui est de taille. Hein. En plus, nos Toulousains ont largement dominé tout le match. Hein. Un concurrent direct à l'Europe. Hein, parce qu'il faut savoir que même si Aix avait gagné, bah, ils pouvaient potentiellement prétendre à une place en Europe. Et franchement, nos Toulousains peuvent dormir sur leurs deux oreilles, mais il ne faut pas qu'ils se relâchent. Attention quand même, hein. Il faut toujours rester constant, il ne faut pas qu'il y ait des défaites. Voilà. Il faut c'est qu'on ça. Soit en forme. Le prochain match, on affrontera Chambéry à la maison, au Palais des Sports. Et puis après, Chambéry, on affrontera Montpellier. Donc voilà, ça va être pas mal.
On a réussi à faire le trou sur Limoges qui, on le rappelle, il y a quelques semaines, commence à nous coller un peu. Limoges qui enchaîne une défaite. Et 2 matchs nuls, donc on arrive à faire le trou, c'est quand même pas mal, et on est qualifié en Europe. Je pense que c'est le plus important au final.
C'est le plus important, oui.
On arrive à la fin de l'émission, on a parlé un peu de tout, on va parler maintenant des événements à venir pour la semaine prochaine et les prochaines semaines, les événements importants qu'il faudra pas rater et sur lesquels on va parler sur temps additionnel. Premier événement, bien sûr, c'est samedi prochain, samedi 25, la finale de Champions Cup Leinster contre le Stade Toulousain le 25 mai à Londres. Donc on a fait nos petits pronos. À vous aussi de faire vos pronos. Nous, on voit le Stade Toulousain, on est à fond derrière eux. On va essayer d'aller les voir au Capitole ou alors dans un bar, on va les supporter à fond. Le deuxième événement, c'est donc Phoenix 4e qui affronte Chambéry en handball. Phoenix qui a l'occasion de faire encore plus un trou sur Limoges 5e et de conserver encore une fois sa place en Europe. Dimanche aussi, on a le fameux Grand Prix de Monaco qui se jouera aux qualifications, à la stratégie évidemment. On espère peut-être un peu de pluie pour pimenter tout ça. On a aussi le GP de Catalogne qui va se dérouler en même temps. Donc franchement, le sport mécanique va être aussi à l'honneur ce week-end. Et les barrages pour accéder à la Ligue 1, on en a parlé tout à l'heure, qui vont se dérouler aussi, on espère, Rodez peut-être en Ligue 1, qui affrontera peut-être Saint-Etienne la semaine prochaine. Donc on leur souhaite bonne chance. Bon, l'émission touche à sa fin. On a eu beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Je pense qu'il y avait beaucoup de sujets à traiter. On s'est régalé encore une fois avec Alexandre à écrire ses émissions, à trouver les musiques, tout ça. Donc merci à l'équipe de Radio Esprit Occitanie, de nous accueillir. Et merci à toi aussi, Alex.
Ah oui, tout le plaisir est pour moi. Écoute, merci beaucoup à Esprit Occitanie, c'était vraiment bien. On a abordé pas mal de choses, il y a eu des victoires.
Franchement, la saison touche à sa fin, donc il y aura beaucoup de bilans sur les prochaines émissions. Il y aura aussi peut-être l'Euro, le 14 juin aussi qui arrive, on n'en a pas parlé, mais l'Euro arrive. Donc, c'est pas que les saisons se finissent, qu'il n'y aura plus rien à dire. Donc, c'était encore un plaisir. Et avec Alexandre, on vous dit
à la semaine prochaine.